Je m'appelle Jean-Yves. J'ai rencontré les Brahmakumaris fin 82 lors d'un alignement avec Jupiter. J'ai fait partie des Biquets pendant 34 ans. Je dois dire tout de suite que je suis très très reconnaissant envers cette famille spirituelle car cela a été des années de bonheur. J'ai une nature heureuse. Je suis heureux presque tout le temps. La principale raison en est le yoga, la connexion avec la lumière. Je suis avant tout un yogi avec de nombreuses expériences spirituelles. J'ai appris la méditation avec les Biquets. C'est un cadeau inestimable. De plus, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de belles âmes spéciales dans cette grande famille exceptionnelle. La très très grande majorité des membres de cette institution sont vraiment de bonnes personnes, de belles âmes, qui mettent tout leur cœur à aider le monde. J'ai un amour très profond et beaucoup de respect pour 99,51% des Biquets. C'est par amour pour la famille brahmine que je fais ce site web. J'ai été impliqué dans plusieurs centres au Canada. Dernièrement, je me suis occupé pendant une vingtaine d'années d'un petit centre de méditation à Gatineau, près d'Ottawa au Canada. J'étais le coordonnateur pour la région de la capitale nationale. Il y a là plusieurs belles âmes. Les personnes autour de moi ne sont pas du tout reliées à ma décision d'arrêter de m'occuper d'un centre et de prendre mes distances avec l'organisation. Ma décision découle uniquement de l'analyse de la connaissance des Brahmakumaris. J'insiste pour dire que tout ce qui est écrit dans ces quelques pages web sont mes opinions personnelles uniquement et en aucun cas celles des âmes autour de moi. Je suis le seul responsable de ces opinions et le seul avec ce genre d'opinion. Un vrai original. Je suis curieux. J'aime apprendre de nouvelles choses. J'aime expérimenter. Je suis un explorateur, souvent un peu trop en avant sur mon temps. Habituellement, les groupes religieux n'aiment pas que leurs membres pensent en dehors de la boîte. Mais les Brahmakumaris ont été très tolérants avec moi. J'ai été menacé d'exclusion seulement deux fois. C'était il y a longtemps. Depuis 34 ans, j'anime des ateliers et je donne des cours avec un but très clair. Que chacun puisse entrer en communication personnelle avec la lumière, l'éternel. Que chacun puisse s'abreuver directement à la source pour qu'il devienne véritablement maître de sa vie. Ici, nous avons des échanges ouverts sur toutes sortes de sujets. Chacun a droit à son opinion, même si elle est différente de la mienne. Je ne suis pas intéressé à programmer des perroquets, mais à aider chacun à réfléchir et à faire ses propres choix. Mon objectif d'embrigader du monde pour les Biquets a disparu il y a bien longtemps. J'aime tout simplement aider les âmes et notre bonne vieille terre. Depuis quelques années, je n'étais plus capable de lire les Sakar Murli. C'était devenu pour moi une insulte à l'intelligence, une programmation par trop évidente. Puis j'ai commencé à trouver des affirmations qui me dérangeaient dans les Avyat Murli. Je me souviens d'un dimanche en particulier où je lisais pour notre petit groupe. Dieu nous encourageait à intensifier nos efforts pour que la destruction arrive plus vite. J'ai réalisé tout à coup que cet enseignement était beaucoup plus orienté vers la destruction que ce que j'aimais croire. C'est fondamentalement opposé à ma tendance naturelle non violente. J'ai donc commencé alors à analyser plus en détail ce que nous enseignions et à faire des recherches en dehors de la boîte. On sait qu'il est possible de mettre des messages subliminaux dans des films, en intercalant une image de temps en temps. Notre œil ne le perçoit pas, mais notre subconscient l'enregistre et influence nos pensées. De même, il est possible de cacher un message parmi les pixels d'une image innocente. Quand on la regarde, notre cerveau fait disparaître les erreurs, les pixels manipulés. C'est seulement quand on étudie plus attentivement cette image et qu'on commence à connecter les points qu'on voit apparaître une autre image subtile, complètement différente. On découvre un second niveau de lecture. De même avec les images d'illusion. Nous voyons ici deux images très classiques. Dans la première image, on voit facilement d'une part le vase et d'autre part les deux visages qui apparaissent tout d'un coup. Mais quand on regarde la deuxième image, est-ce que vous voyez les trois autres personnages en plus du vase et en plus des deux personnes âgées dans la seconde? Je me suis amusé à faire la même chose avec la connaissance des Brahma Kumaris. Et j'ai vu apparaître d'autres images et concepts intéressants derrière les concepts habituels. C'est une des habitudes des Illuminati. Cacher des informations de façon tellement évidente que personne ne les remarque. Une de mes grandes découvertes, qui a été un point tournant dans cette recherche, a été la réalisation de la présence de nombreuses races extraterrestres, des Iti, sur cette Terre et dans le cosmos. Les preuves et les témoignages sont tellement nombreux qu'il faut vraiment être complètement fermé pour penser encore que nous sommes seuls dans cet univers de 200 trillions de galaxies composées elles-mêmes de plusieurs milliards d'étoiles. Par contre, à partir du moment où on accepte qu'il existe ne serait-ce qu'un seul extraterrestre, ce simple petit grain de sable dans les rouages du cycle l'envoie à la scrap, au recyclage. Quand le cycle ne tourne plus rond, automatiquement beaucoup de questions apparaissent. Et répondre aux questions, c'est compliqué. En d'autres mots, pour résumer, je ne crois plus dans le cycle et je ne crois plus non plus que Dieu enseigne les Brahma Kumaris. Avant de faire ces recherches, je pensais que j'étais plutôt intelligent et que je faisais partie des chanceux qui avait trouvé la place, le bon groupe, Dieu lui-même. J'ai réalisé que je m'étais fait mener en bateau pendant toutes ces années. C'est une leçon d'humilité très intéressante. Bien sûr, je n'ai pas tout perdu à croire au Père Noël, puisque j'ai été très heureux pendant 34 ans et que j'ai partagé mon bonheur avec bien du monde. Mais il est pour moi bien difficile de jouer mon rôle de dada en sachant que la moitié de la connaissance est fausse. Il faudrait que je fasse semblant et que je mente constamment. Mentir n'est pas mon fort. Comme je suis fondamentalement honnête, ce n'est pas possible. Je commence donc une nouvelle vie. La question qui suit naturellement est : pourquoi l'exposer publiquement plutôt que de disparaître discrètement comme beaucoup de biquets ? Premièrement, à cause de la destruction omniprésente dans la connaissance. Je crois que la promotion de la destruction, spécialement parmi les personnes spirituelles ou religieuses, est très dangereuse. Elle pourrait effectivement la provoquer. J'ai trop d'amour pour les êtres humains et notre chère terre-mère pour ne rien dire. Je crois que cette notion est machiavélique. Deuxièmement, pour aider les âmes à se libérer d'un système religieux paralysant et inutilement compliqué. Ce système emprisonne les âmes dans des croyances et comportements, amenant la passivité sociale, la fermeture aux autres groupes et à l'information. Ce système draine et canalise l'énergie, les spécialités, l'argent, les pensées et le temps de millions d'âmes de bonne volonté vers un but carrément démoniaque, la destruction de l'humanité. Les réactions que j'ai eues jusqu'à maintenant des biquets sont très positives. Et les réactions des âmes en contact avec les biquets sont encore beaucoup plus positives. J'ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Par contre, je ne pense pas que la hiérarchie apprécie beaucoup mon honnêteté. Au cas où elle deviendrait trop agressive, je garde en réserve une page additionnelle avec plusieurs histoires et expériences croustillantes accumulées durant mes 34 ans comme biquet. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je pensais que j'avais la vérité. On me l'avait fait croire. Maintenant, je suis beaucoup plus prudent. Je partage simplement des réflexions qui vont peut-être changer demain. Ce sont des idées, des croyances, des expériences. Je ne cherche pas à convaincre, mais simplement à faire avancer le Schmilblick. Laissez-moi vous conter une petite aventure qui m'est arrivée il y a une vingtaine d'années. Une aventure aérienne. Je revenais de Madouban et je me préparais à prendre l'avion à l'aéroport de Delhi. C'était durant la période où il y avait des problèmes avec le Punjab. Entre autres, un avion d'Air India venant du Canada avait explosé en vol. Les responsables étaient des Sikhs. Je suis très sensible aux énergies. Cela aide pour le yoga. Je m'en sers aussi pour lire les auras, trouver les bonnes places pour dormir ou vérifier si des esprits sont attachés à une personne ou à une place. J'étais donc dans une file qui attendait pour présenter son passeport. À côté de moi, il y avait trois hommes barbus avec des turbans. Leur énergie était épouvantable, à faire froid dans le dos. En bon biquet, j'ai donc pratiqué le détachement, présenté mon passeport et embarqué dans l'avion. Je retournais à la maison. Quand tout le monde a été embarqué, le commandant de bord nous a annoncé en s'excusant qu'il y avait un petit problème technique et qu'on allait devoir attendre une petite demi-heure avant de décoller. Une heure plus tard, rebelote. Trois heures plus tard, on était toujours sur le tarmac. Je me suis donc mis en yoga et j'ai parlé à mon ami la lumière. « Ok, c'est bon, je me détache de l'Inde. Je suis prêt à partir. Peut-être qu'on pourrait y aller. » Avez-vous déjà vu des mitraillettes dans un avion? Ce jour-là, j'en ai vu plusieurs. En effet, quelques minutes après, un groupe des forces spéciales indiennes est entré armé jusqu'aux dents. Ils ont expulsé de l'avion tous les hommes qui avaient un turban. Autrement dit, tous les Sikhs. L'avion d'Air India, alors à moitié vide, a enfin décollé. Je me suis remis en yoga et j'ai reparlé à la lumière. Je lui ai dit « Merci beaucoup. I love you. » Cette nuit-là, une fois de plus, elle m'avait protégé. Si la même chose m'arrivait maintenant, si je ressentais que des personnes avaient une énergie vraiment bizarre avant d'embarquer dans un avion, un train ou un bus, je ne me dirais pas « Ce ne sont pas mes affaires. » Drama is perfect. J'irai directement vers la sécurité et je les dénoncerai. Il vaut mieux une fausse alerte que d'avoir des morts sur la conscience. Entre parenthèses, surtout quand on en fait partie. Imaginez maintenant que vous êtes dans un avion très haut dans le ciel. Toute votre nombreuse famille autour de vous est à moitié endormie. Certains ont pris quelques intoxicants. D'autres se sont levés à 4 heures et sont épuisés. D'autres sont KO à cause de la réduction systématique de l'oxygène dans la cabine pour faire dormir les passagers, comme cela se fait actuellement. Et tout d'un coup, vous recevez une information urgente sur votre téléphone intelligent disant que le pilote se prépare à faire écraser l'avion. Vous vérifiez l'info et constatez que c'est vrai. Le pilote l'a déclaré plusieurs fois sur ses pages Murli. En plus, il a dit qu'il y aurait une bombe atomique à bord pour tuer le maximum de monde et tenter de nettoyer la planète de tous les intouchables. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous essayeriez de dormir de nouveau en vous répétant « drama est parfait, wa drama » ou vous pousseriez un soupir en disant « enfin ». Ou vous seriez très contente en disant « Je vais bientôt être une reine avec de nombreux serviteurs. » Ou est-ce que, comme moi, vous essayeriez de réveiller les autres passagers et de prévenir les hôtesses? Au risque de passer pour un traître, moi, j'ai choisi de réveiller les passagers avant le moment fatidique pour tenter quelque chose. Mais comme je sais aussi que certaines personnes sont de mauvaise humeur quand on les réveille trop brusquement, et qu'ils ne feront probablement rien sinon attaquer le messager, j'ai pris mes précautions. Je laisse donc derrière moi ce petit enregistrement appelé site web, expliquant la situation. Je déploie le parachute que j'ai apporté dans mes bagages, je saute de l'avion et je souhaite bon voyage et bonne chance à tout le monde. Conclusion. Les Brahmines sont fondamentalement de bonnes personnes, qui ont certainement connu l'âge d'or dans une autre civilisation ou sur une autre planète dans une autre galaxie. Il est donc naturel que cette notion résonne avec d'anciennes mémoires et que les Bikés veuillent retrouver ce paradis perdu. De plus, une âme qui a vécu dans une société en harmonie est fondamentalement honnête, avec de bonnes intentions, et aussi une grande naïveté. Pour elle, il est difficilement concevable que quelqu'un essaie de la tromper, surtout quand ce quelqu'un est Dieu. Cela ne fait pas partie de ses concepts de base. On peut voir que beaucoup d'âmes biquées sont simples et un peu naïves, comme des enfants. J'espère que ces quelques pages aideront à ouvrir le troisième œil du discernement et à rendre chacun plus autonome et maître de sa vie. En renonçant à faire partie de cette belle petite famille brahmine, j'ai reçu en échange une immense famille de 7 milliards de terriens et d'innombrables non-terriens. Wow, that's a deal. Personnellement, je vais continuer à enseigner la méditation, le joyau de la connaissance des Brahma Kumaris. Elle est un excellent outil pour notre vie intérieure et la spiritualité. Mais je vais le faire de façon indépendante, sans personne pour me rappeler que ce que je dis n'est pas dans la ligne du parti. Je n'aurai pas non plus à m'engager à enseigner Srimat, comme doivent le faire maintenant les coordonnateurs. Je n'entendrai plus il y a les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3. Je n'aurai plus à rendre de compte, ni à faire semblant d'être parfait. Je pourrai choisir ma vie. Je suis libre. La libération dans la vie. Il me semble que je respire déjà beaucoup mieux. Je suis encore plus heureux qu'avant. J'espère que ma grande famille spirituelle ne m'en voudra pas trop de partager tout cela publiquement, sur ces quelques pages qui vont flotter sur l'immense océan de l'Internet. De toute façon, ce que je dis ici sera bientôt d'actualité dans la famille brahmine, car de plus en plus de personnes très haut placées parmi les Lokiks font tout leur possible pour faire connaître au monde la présence de nos voisins venant de l'espace. Comme je l'expliquais plus tôt, cela va jeter des doutes sur toute la connaissance et toutes les religions. Les arbres vont être secoués. Chacun aura à choisir. Après avoir lu ces quelques pages, vous serez un peu en avance. Un dernier petit conseil. Vous pourriez peut-être échanger quelques diamants de votre hypothétique future couronne de déité contre un bon parachute. Il pourrait être très utile dans vos bagages. Que la sublime, la paix, l'amour, la félicité soient présents chaque jour dans votre vie. Bonne chance. Don't worry. Be happy.